RFI Midi. Anne Cantner.
L'alerte est venue de la grande barrière de corail, encore une fois, mais le phénomène est mondial. Les coraux s'éteignent, ils blanchissent au large de l'Australie, mais aussi dans la mer des Caraïbes, dans les océans Indien ou Pacifique. Et pour en parler, nous recevons tout de suite Denis Allemand, professeur des universités et directeur scientifique au Centre scientifique de Monaco. Bonjour.
Bonjour.
On va peut-être commencer par expliquer ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les coraux blanchissent ?
Alors, pour expliquer pourquoi les coraux blanchissent, il faut rappeler que les coraux sont des animaux, mais des animaux très particuliers, puisqu'ils vivent en symbiose avec des micro-algues, des algues unicellulaires. Et cette symbiose va être très importante pour le corail, puisqu'elle va fournir 90% de la nourriture de l'animal. Et cette symbiose, malheureusement, a un défaut. Elle est très sensible à l'augmentation de température. Et au-delà d'une certaine température, variable suivant les lieux, cette symbiose est rompue. Les deux partenaires se séparent. C'est ce qu'on appelle blanchissement, puisque le corail perdant ses algues, il perd en même temps la couleur, les algues donnant la couleur au corail. Et donc, on voit par transparence, à travers les tissus devenus transparents, on voit le squelette tout blanc.
Donc l'image est très impressionnante, c'est frappant. Ce qu'il y a de particulier en ce moment, c'est que, on en avait parlé à plusieurs reprises pour la grande barrière de corail, ça n'est pas la première fois, mais là on observe que le phénomène touche de nombreuses zones dans le monde.
Alors vous avez tout à fait raison, hein, le blanchissement n'est pas nouveau. En fait, il est apparu dans les années 80, il y a eu plusieurs phénomènes de blanchissement de masse, plus ou moins importants. Aujourd'hui, ce que l'on s'aperçoit, c'est que les coraux de certaines zones dans le nord, en particulier la mer Rouge, le golfe d'Aqaba, le golfe Persique, sont touchés. Or, ces sites étaient jusqu'à présent presque totalement épargné. C'était des zones refuges, donc des zones relativement peu touchées par le blanchissement, et on pensait que ça pouvait être justement des zones où les restes coralliens pouvaient survivre. Aujourd'hui, le fait que ces zones sont également touchées montre qu'on a vraiment atteint un niveau très élevé dans cette problématique.
Et donc, c'est un effet direct du réchauffement climatique ?
Tout à fait. C'est vraiment l'augmentation de la température de l'eau qui fragilise cette symbiose, qui perturbe cette symbiose, et donc les deux partenaires se séparent. Alors, en plus de le réchauffement de l'eau, il peut y avoir d'autres phénomènes qui peuvent contribuer à finalement au stress du corail, hein, les pollutions, mais là on a vraiment affaire à un problème de réchauffement de l'eau.
Alors, si j'ai bien compris, les coraux ont la possibilité de se régénérer, même après un épisode de blanchissement, mais pour ça, il leur faut du temps, c'est ça ?
Alors, tout à fait. Alors, il y a deux choses. Le blanchissement est irréversible. Le blanchissement ne dure pas trop longtemps, c'est-à-dire un peu moins de 15 jours, les coraux peuvent récupérer leurs algues, soit en repartant, en recultivant, entre guillemets, les algues qui se trouvent encore dans leur tissu, soit en captant des algues du milieu extérieur. Au-delà de 15 jours, le corail, malheureusement, ne peut plus vivre, tout simplement parce qu'il lui manque la nourriture. Les algues amènent la nourriture au corail. Et donc, au-delà de 15 jours, malheureusement, souvent, le corail meurt. Alors ça, c'est le premier problème. Mais également, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces phénomènes de blanchissement depuis les années 80 sont de plus en plus nombreux, de plus en plus fréquents, de plus en plus haute intensité, et on le voit là, hein, on atteint une intensité sûrement jamais égalée, et tout ça perturbe réellement les récifs coralliens qui, même s'ils récupèrent leurs algues, n'arrivent plus à récupérer de la souffrance qu'ils ont d'avoir perdu ces algues, et donc ça fragilise énormément les récifs coralliens.
Est-ce qu'on observe, en plus de ce que vous nous décriviez à l'instant, le phénomène dont vous nous parliez juste avant, c'est-à-dire des blanchissements de plus de 15 jours dont les coraux ne peuvent pas se remettre ?
Alors oui, alors pour l'instant, il semblerait, d'après les informations que j'ai reçues de nos différents collègues, il semblerait que l'épisode soit peut-être de courte durée et donc n'induise pas de mortalité très importante. Mais ça reste encore à démontrer. Mais on le voit, la grande barrière dont vous parliez tout à l'heure, une bonne partie, 20% de ces coraux ont déjà disparu.
Et puis il faut le dire, il y a les coraux et puis avec, c'est tout un écosystème qui se meurt quand les coraux blanchissent.
Alors, vous avez tout à fait raison. Hein. On pourrait imaginer que c'est comme problème de perte d'une espèce, voire d'un écosystème, mais c'est beaucoup plus important. Les coraux, c'est les récifs coralliens, c'est 0,2% de la surface des océans, donc c'est tout petit, mais ces 0,2% abritent 30% de toute la faune marine connue, invertébrés, poissons. Donc c'est vraiment énorme. Hein. Premier impact, si les coraux, les récifs de coraux disparaissent, on perd 30% de toute la biodiversité marine. Mais c'est pas simplement ça. Cette diversité est en fait la source de revenus pour l'homme, l'homme qui vit au bord des récifs, sur les îles du Pacifique, en Australie, qui en tire des revenus issus de la pêche, qui en tire des revenus issus du tourisme. Et ces récifs également protègent les îles des attaques et des ouragans. Donc la disparition des récifs, c'est non seulement une perte écologique phénoménale, mais c'est aussi une perte humaine vraiment très importante.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Denis Allemand.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes professeur des universités et directeur scientifique au Centre scientifique de Monaco. Merci et bonne journée.